À Rencontre spirituelle en ce 17 février, c'est la fête des sept saints fondateurs de l'ordre des Servites de Marie, qui étaient des marchands à Florence au 13e siècle. C'est un ordre très ancien que les Servites de Marie. On pourrait croire, étant donné qu'ils portent le nom de la Vierge, Servites de Marie, que c'est plus récent, mais pas du tout. C'est bien du 13e siècle à Florence que sept marchands, c'est là qu'ils ont fondé, sans trop le savoir au fond, l'ordre des Servites de Marie. Vous verrez tout à l'heure. Ils sont canonisés et leurs restes sont gardés dans une magnifique châsse dorée dans l'un de leurs principaux couvents. J'ai vu ça cet été avec grand joie, dans des endroits magnifiques, dans des couvents superbes. Les Servites sont extrêmement puissants, tant sur le plan intellectuel que sur le plan de la sainteté, en Italie. Remarquable. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Il y a aussi des Servites ici au Québec. Nous en avons environ 65, dont Mgr Chimichella, qui a été évêque auxiliaire à Montréal jusqu'à février l'an dernier, il y a un an, et qui a été curé de la cathédrale pendant 25 ans, est évêque, évidemment. Et il y a aussi le père Sirard, et puis bien d'autres. Ils sont en France aussi, établis en Provence, autour de Nice et Marseille, mais ils ont été supprimés par le roi Louis XV et on ne sait pas encore au juste pourquoi. Au siècle dernier, au début de ce siècle, il y a eu des efforts pour les rétablir en France. C'était assez difficile. Il y avait parmi eux le fameux cardinal Lépicier, dont je vous parlerai un jour. Et ils ont des maisons entre, chose étrange, entre Lisieux, là où est morte Thérèse de Lisieux, évidemment, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, et Alençon, où elle est née. Et puis, ils sont aussi dans la région de Paray-le-Monial et du fameux monastère de Thésée, dans le diocèse d'Autun. Ils sont aussi entre Ars et Lyon. Alors, ils sont dans des endroits remarquables. Il y a des religieuses à Paris, il y a aussi des Servites à Bruxelles. Alors, voilà pour ce qui en est aujourd'hui. J'ai rencontré aussi en Italie l'un des plus grands défenseurs de la forêt de l'Amazone, et c'est un Servite extraordinaire. Quel courage que cet homme, qui était déjà d'un certain âge. À Florence, au 13e siècle, c'est là que ça a été fondé, l'ordre des Servites de Marie, et le cœur de cet ordre, c'est la Santissima Annunziata, c'est-à-dire la très sainte Annonciation. C'est la grande église, immense comme une cathédrale, et l'immense couvent qui appartient, et toujours, aux Servites, ou aux serviteurs de Marie, si vous préférez. Et tous les Florentins savent que cet ensemble forme depuis 7 siècles le centre, non officiel peut-être, mais réel, de l'esprit religieux de Florence même. 7 siècles d'histoire, 7 siècles qui forment un tout avec l'histoire de cette cité admirable, de son peuple, de sa foi, de sa culture. Et c'est pourquoi, quand on aime Florence, il est bon, il me semble, de connaître l'histoire de ceux qui ont fait don à Florence et au monde entier, de l'ordre des serviteurs de Marie, puis de ce fameux sanctuaire de l'Annunziata. Je veux dire l'histoire de ce groupe de Florentins qui, il y a 7 siècles, ont élevé les murs du couvent et ont voulu que dans leur église soit peinte la fameuse fresque qui représente la Vierge au moment de l'Annonciation. Une Vierge à laquelle on attribue bien des miracles, mais c'est la Vierge de l'Annonciation, c'est-à-dire cette Vierge au moment où, avec son oui à ce que voulait Dieu d'elle, n'est-ce pas? Eh bien, par ce oui, elle est devenue la première des nouvelles croyantes. Elle est devenue le début d'un temps nouveau. Elle est devenue l'origine de la libération de l'humanité par son Christ, par son Fils. Et l'histoire la plus authentique, la plus vraie de ces fondateurs de l'Église et du couvent de l'Annunziata, ce Florence, demeure toujours au-dessus de toute reconstitution critique, comme le dit Mgr Chimichella dans un texte, celle qui fut composée en 1317 par un Servite de Marie, 7 ans seulement après la mort du dernier des 7 fondateurs, le frère Alexis, qui serait mort à environ 112 ans. Il s'appelait Alexis Falconieri. Donc, parent de la sainte Falconieri. Et on peut lire un résumé de l'histoire de tout cela dans le bréviaire romain, dans la liturgie des heures aujourd'hui, au 17 février de chaque année. Voici en résumé le texte du bréviaire. Il y avait à Florence 7 hommes dignes, c'est le texte de 1317 là. Il y avait à Florence 7 hommes dignes de beaucoup de vénération et d'honneur. Et un d'entre eux, par un lien d'une fraternelle amitié, puis animé par les mêmes idéaux, bien Notre-Dame, Marie, se servit d'eux pour commencer son ordre religieux et celui de ses serviteurs. Et l'auteur raconte, « Quand j'entrai dans l'ordre, je ne trouvais aucun d'eux encore vivant, excepté le frère Alexis. » Je vous ai dit qu'il est mort à 112 ans. Je crois qu'il plut à Notre-Dame de le conserver jusqu'à nos jours pour que, dans sa voix, par son témoignage, quoi, nous puissions connaître l'origine de notre ordre, la vie des premiers pères, avant qu'elles ne s'unissent ensemble, avant qu'ils ne vivent ensemble, avait quatre aspects. D'abord, leur état de chrétien à ces marchands se présentait ainsi. Quelques-uns parmi eux avaient décidé de conserver leur virginité et leur chasteté, mais d'autres étaient liés par le lien du mariage, puis enfin d'autres étaient veufs. Mais tous avaient consacré leur existence au service du Christ, l'Église, dans l'Église. Et leur identité sociale, bien, ils exerçaient la même profession, je vous l'ai dit, de marchands, puis ils achetaient, vendaient des biens terrestres. Mais quand ils ont découvert la pierre précieuse, la perle dont parle l'Évangile, c'est-à-dire la vocation à un état religieux beaucoup plus engageant, mais non seulement ils ont donné aux pauvres ce qu'ils possédaient, mais ils se sont donnés eux-mêmes à Dieu et à Notre-Dame dans un élan joyeux. Et ils ont servi Dieu et Notre-Dame avec la plus grande fidélité. Et troisièmement, il y a leur vénération à la Vierge. L'auteur dit, en 1317, il existait à Florence une société en l'honneur de la Vierge Marie qui avait été fondée depuis longtemps. Et puis, cette société, qui était ancienne, et qui était remarquable aussi par sa sainteté, puis par le grand nombre d'hommes et de femmes qui y adhéraient, cette société avait acquis une telle notoriété, une telle importance vis-à-vis de beaucoup d'autres, qu'elle en était venue à s'appeler Compagnie majeure de Sainte-Marie. Alors nos sept marchands, nos sept hommes, étaient membres de cette compagnie. Avant de se réunir ensemble, ils avaient donc appris à vénérer la Sainte Vierge. Et quatrièmement, leur histoire intérieure. Tous aimaient Dieu par-dessus toute chose. C'est vers lui qu'ils dirigeaient toutes leurs actions. Et ils honoraient Dieu dans toutes leurs pensées, dans toutes leurs paroles, dans toutes leurs actions, vraiment. Hein. Et puis, après qu'ils eurent décidé, ces sept hommes, avec une résolution très ferme de se réunir pour vivre en commun, pour vivre ensemble, ils ont été poussés par des inspirations divines, dit le texte, et par l'appel de Marie. Puis ils ont abandonné leur maison et leur famille. À leur famille, ils ont laissé évidemment le nécessaire pour vivre comme il faut. Mais ils ont distribué le reste aux pauvres. Ils se sont retirés dans une masure, c'est-à-dire une maison plutôt pauvre, dans un endroit qu'on appelle Cafaggio à Florence. À une date qu'ils ont fixée ensemble, et qui leur a été inspiré par la Vierge, et en ce même jour de l'année 1233, naissait le bienheureux Philippe. Et monté sur le mont Scénario, ils se sont rendus compte que Notre-Dame ne les avait pas réunis seulement pour travailler à leur propre sanctification, mais aussi dans le but d'en agréger d'autres et d'étendre ainsi le nouvel ordre que la Vierge avait initié par leur entremise. Il a été question de la naissance du bienheureux Philippe, c'est que c'est un des saints les plus importants. Il y a de nombreux saints chez les servites de Marie. C'est énorme, il y a des tombes un peu partout en Italie, on peut visiter ça, il y en a même un, le saint Pucci, son nom de famille, un curé qui a été canonisé il n'y a pas tellement longtemps, qui a vécu à la fin du siècle. Je suis allé dans le presbytère, j'ai visité la chambre où il a vécu, c'était un saint prêtre de paroisse. Alors, ce sont des moments essentiels, ça, que la lecture de tout ça, là, qu'on peut retirer de la vie de ces sept Florentins. Donc, ils nous sont transmis des faits qui nous sont transmis par un texte de l'année 1317 là, que je viens de vous lire. On peut constater que l'élément extraordinaire, puis les anecdotes miraculeuses ou prodigieuses qui accompagnent souvent hein, les biographies de saints, mais il n'y en a pas là. Dans l'histoire des fondateurs de l'ordre des serviteurs de Marie, il n'y a rien de tel. L'auteur qui a écrit ça en 1317 semble préoccupé plutôt lui de faire ressortir de ces sept marchands des qualités morales, une origine, une conduite de vie normale, pas de choc nerveux, pas d'histoire abracadabrante, pas de conversion éclatante, pas de prodige. Et pour lui, c'est déjà prodigieux que de décider de tout donner aux pauvres, pour se consacrer totalement à Dieu. Et sur ce témoignage oral du dernier des fondateurs, le frère Alexis Falconieri, qui a inspiré le texte que je vous ai lu, ben on peut tirer, comme l'a fait l'Église en les canonisant, des réflexions sur le genre de sainteté de ces premiers pères qui ont donné à Florence ce grand sanctuaire de la Nunziata qu'il faut visiter à Florence, qui ont donné ce sanctuaire comme ça à l'Église, et qui ont donné aussi un nouvel ordre religieux à l'humanité, qui ont donné des religieux qui portent encore l'Évangile dans presque toutes les parties du monde, vous savez, ils sont très répandus, ils sont missionnaires, je vous ai parlé de l'un qui sauve les forêts de l'Amazonie, en Amérique du Sud. Et même à ceux qui n'ont jamais entendu prononcer le nom du Christ, ils sont là pour le prononcer. Et puis, ils vénèrent toujours la Mère de Dieu, toujours. Il semble nécessaire pour mieux comprendre ces saints du XIIIe siècle, il me semble qu'il faut les voir dans leur milieu, dans les difficultés de leur temps. Et ils ont dû faire face à bien des problèmes pour changer de vie. On a à notre disposition deux dates importantes qui ouvrent et ferment le cycle de la vie des saints fondateurs. Le texte que je vous ai lu le rapporte que tous les membres du groupe sont nés à Florence, aux environs des années 1215 et même un peu plus tôt. Dans un document original aujourd'hui, on peut encore lire que le dernier des sept, le frère Alexis, est mort en 1310. Dans ce laps de temps, Florence a vécu peut-être l'époque la plus riche de cette civilisation à laquelle cette grande ville va atteindre, et la civilisation à laquelle va atteindre aussi l'Europe durant les siècles qui vont suivre. Au XIIIe siècle, en effet, vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé de Dante Alighieri, et j'ai fait une émission sur lui, mais c'est au XIIIe siècle qu'il est né à Florence. C'est avec lui que grandissent la poésie et la langue italienne. C'est à ce moment-là aussi que naît Cimabue et Giotto, des grands artistes. Et la Renaissance, la peinture, c'est de là que ça part. Au milieu du siècle, en 1250, Florence donne l'exemple d'un gouvernement démocratique avec le statut du premier peuple. Un peu plus tard, va naître Frangelico, dont je vous parlerai demain. Les banques, les marchands de Florence, la monnaie, ça c'est fait de la cité un centre européen. Il y a l'économie, la culture, la religion, avec ses soulèvements pleins d'enthousiasme. Il y a des hérésies, il y a même des sanctions inévitables à l'époque contre les hérésies. Et Florence est aussi un point de mire de convoitise. Je crois que seule la haute intelligence puis la sensibilité de ce peuple ont su faire en sorte que malgré tout, les Florentins ont trouvé cet équilibre qui fait les grandes civilisations. C'est en bref l'atmosphère dans laquelle les sept saints fondateurs sont nés et ont travaillé. Et dans la vie sociale, je vous l'ai dit, ce sont des marchands. Et tout savant du Moyen-Âge, particulièrement de Florence, reconnaît aujourd'hui que les marchands ont eu un rôle important dans l'épanouissement de la civilisation à Florence au XIIIe siècle. Et je vous raconterai ça tout à l'heure et je vais vous montrer comment ces marchands, dans des moments de querelle, ont su saisir que l'essentiel, bien, c'est de servir Dieu et de servir son prochain. Il ne faut pas croire que nos sept marchands qui ont fondé les servites de Marie se plaisaient à chanter simplement des louanges à la Sainte Vierge ou au bon Dieu dans des confréries laïques. Ils étaient plongés dans une espèce de sensiblerie, se contentant de faire des aumônes aux églises et aux couvents. En réalité, tout ce qui alors se référait à l'aide sociale, avec des fonds pour aider les hôpitaux, les hospices de pèlerins, l'assistance privée aux pauvres et aux vieillards, tout cela était laissé au pouvoir civil. à cette classe de citoyens dont le véritable privilège consistait à être très ardents au travail, et ils étaient parmi eux. Alors politiquement, ces sept frères étaient des marchands, ils avaient une nuance politique bien précise, ces hommes-là, ils étaient du parti Guelph, c'est-à-dire un parti politique, parce qu'il y avait deux partis politiques très importants à cette époque-là. Je vous explique donc le parti Guelph, qui à ce moment-là voyait plutôt, lui, la sécurité puis la stabilité des libertés de Florence et des environs, puis l'orthodoxie de la foi, dans l'alliance avec la papauté contre l'Empire. Et en général, les fondateurs de l'Église de l'Annunciata puis de l'Ordre des Servites passent au-dessus de ces questions de parti, autant qu'ils le peuvent. Quoique, à mon avis, cela revêt une certaine importance quand même. Même sans examiner les noms de famille là, des sept que la tradition seulement nous a transmis, ben, il est possible de prouver leur adhésion politique. Et durant toute la moitié du XIIIe siècle, les familles qui ont des rapports d'amitié entre elles et aident le couvent de Cafaggio, où ils ont commencé, là, sont des familles guelfes. Les noms, ben, il y a les Portinari, les Cavalcanti, les Alfani, etc., etc. Puis le grand chroniqueur Giovanni Villani, par deux fois, lui, il affirme que le parti guelf tenait toutes ses archives secrètes bien gardées ou dans l'église de Sainte-Marie de Cafaggio, c'est-à-dire à la Santa Annunziata, finalement, chez les Servites, où elles sont demeurées jusqu'en 1570. Donc, vraiment, chez les Servites. Alors, ces sept Florentins, marchands et guelfes, donc, membres du parti guelf, bien en vue dans leur cité, très dévoués à la Sainte Vierge, dont ils se disent les serviteurs, ils sont membres de la compagnie majeure, comme je vous ai dit, liés, comme il nous semble, par certains documents, au mouvement des frères de la pénitence, dont je vous parlerai peut-être un jour, les fameux frères de la pénitence, mais se rencontrent, ces gens-là, ces sept-là, dans l'idéal religieux d'une grande amitié. Pendant l'année 1233, si selon la tradition, ils ont décidé de tout abandonner. Ils abandonnent les activités, le succès, les biens, la famille. Ils vivent ensemble dans une petite maison juste aux limites des murs de Florence, donc à Cafaggio, C-A-F-A-G-G-I-O, sans cependant couper définitivement les liens avec le monde, là, qui les recherche puis les admire. C'est pas des moines cloîtrés. Il est certain qu'une partie de leur vie en ce temps-là était dédiée à l'assistance aux malades, dans un hôpital qui leur appartenait, dans la commune de Bagno, à Ripoli. Il semble, du moins, comme il est relaté dans leur première biographie, que vu l'estime puis la dévotion acquise auprès des citoyens, là, de Florence en particulier, bien, leur refuge à Cafaggio était chaque jour visité par des hommes et des femmes, désireux de s'édifier en les écoutant, puis en essayant de les imiter. Et c'est de là que, selon le texte cité, là, que je vous ai lu tout à l'heure, les sept ont pris la décision de se retirer, finalement, dans la solitude du Mont Cenario. Ah, il faut visiter ça en Italie, hein, où ils se seraient réfugiés vers les années 1240-1241. C'est là qu'ils sont, leurs restes se sont gardés au-dessus d'un hôtel, dans une chasse. Et si nous regardons l'histoire de leur ville, de Florence, il se peut que cette vocation d'ermite au Mont Cenario a eu une origine différente de celle racontée par les hagiographes. Dès 1237, donc 4 ans après la fondation, dès 1237, Florence, après de longues guerres avec la ville de Sienne, puis des luttes intérieures aussi, reconnaît à l'empereur Frédéric II le droit de confirmer son pouvoir et s'engage à lui prêter l'aide militaire. Mais plus tard, les Guelfes, qui sont défenseurs de l'indépendance puis de la papauté, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais ils entrent en conflit avec les gens de l'empereur Frédéric II, qu'on appelle les Gibelins, qui sont partisans de la soumission, donc, à l'Empire. Et ainsi que les pouvoirs Gibelins, d'une part, gouverneront la commune de Florence, là, pendant une dizaine d'années, de 1239 à 1250. Mais là, il y aurait des manœuvres sournoises et persécutions ouvertes qui seront portées contre les Guelfes, donc contre les Servites de Marie, portées aussi contre le clergé et les religieux défenseurs de la liberté de Florence qui sont alliés au pape. C'est un climat politique plutôt terrible. Puis on peut penser que le groupe fidèle au pape, réuni dans la espèce de pauvre vieille maison de Cafaggio, là, ils sont au début, les Servites, là, mais qui pouvaient facilement devenir suspects aux Gibelins, d'autant plus que le va-et-vient de personnes qui quotidiennement visitaient les sept fondateurs, sept saints fondateurs des servites. Mais ça pouvait être une preuve indiscutable de complot, c'était dangereux pour eux, et voici que l'évêque de Florence offre au premier serviteur de Marie un refuge assuré, donc dans la solitude du Mont Scénario, dont je vous ai parlé. Scénario, S-E accent aigu, N-A-R-I-O. Alors, dans cet endroit-là, leur vie ne pouvait qu'avoir un cachet plutôt érémitique. Ils vivaient en commun quand même. Puis dans le silence, dans la prière, puis dans la solitude, la vocation à une institution régulière du groupe laïque des serviteurs de Marie est devenue évidente, là. Une vocation qui sera ouverte à tous ceux qui voudront participer à leur idéal religieux. À Florence, là, donc, puis au Mont Scénario, ça leur fait deux endroits, mais les sept vont rencontrer qui? Le fameux dominicain Saint-Pierre de Vérone, Saint-Pierre martyr, comme on l'appelle, qui est envoyé par le pape pour prêcher contre les hérétiques. Et sûrement qu'une telle rencontre a dû être déterminante pour décider de fonder ce nouvel ordre dans l'Église et donner suite à un projet qui, au début, devait s'éteindre avec eux, en principe, parce qu'ils ne pensaient pas, eux autres, vraiment fonder, comme je vous ai dit au début. Alors, tandis que dans la cité de Florence, après des luttes terribles, les Guelfes ont dû capituler, les partisans du pape ont dû capituler le 2 février 1249, ils ont été obligés de s'enfuir, essayant de trouver refuge dans les châteaux de la campagne, mais dans le sang de l'Italie, le pouvoir de l'empereur Frédéric II est désormais arrivé à son terme quand même. Alors là, les Guelfs vont rentrer dans leur ville après une révolte du peuple. Et puis, les serviteurs, les servites de Marie, posent la première pierre de Santa Maria di Caffaggio, et le 1er juillet 1250, on achète pour la communauté du Mont Scénario un autre terrain pour construire l'église puis le couvent de l'Annunziata. Et là, ça part, ça commence, cet ordre va prendre une ampleur immense. Après le retour de la... disons, du bon côté pour les Guelfes à Florence, là, même les serviteurs de Marie, les servites, descendent près des murs de la cité avec l'intention de s'y établir définitivement. Et c'est ainsi que sont nés le couvent, l'église de l'Annunziata, dont je vous ai parlé dès le début, et l'image de la Madone, qui va donner à Florence son sanctuaire marial. C'est une très belle image. Et dans la même année, les servites sont à Sienne. Presque aussitôt, ils s'établissent à Pistoia, à Arezzo, à San Sepolcro, et même au-delà des Alpes, en Allemagne. Ils se répandent rapidement. C'est le fruit de la vocation particulière et surtout de la spiritualité de ces serviteurs de Marie. Et en premier lieu, il faut bien le reconnaître, c'est le fruit de la sainteté de ces sept fondateurs. Ces sept hommes ont été vraiment des fils de leur temps. Ils ont vécu en chrétien les joies et les souffrances de leur vie. Et ils n'ont pas été étrangers à la ville de Florence et au peuple. Ils ont participé, puis ils ont partagé les espérances puis les déceptions des Florentins. Il reste, pour la nouvelle institution religieuse, pour cet ordre magnifique, encore un demi-siècle de lutte pour vaincre les difficultés qui proviennent des lois de l'Église. Puis en 1304, c'est là qu'ils ont l'approbation finalement. Et pendant ce temps, tandis que l'un après l'autre, les sept saints fondateurs marquent l'histoire de l'ordre par leur mort, eh bien, deux disciples parmi les mieux préparés, les plus saints, Saint Philippe Benési, dont vous avez mentionné un peu tout à l'heure l'existence, la naissance, et le bienheureux Lotaringo della Stufa, les cinquième et sixième généraux de l'ordre, vont de l'avant, ils vont propager dans le monde la vocation des premiers pères servites de Marie. Aujourd'hui, il est question des sept saints fondateurs de l'ordre des servites de Marie, auquel appartient Monseigneur Chimichella, qui est très connu à Montréal. Ordre extrêmement intéressant, particulièrement en Italie, où ils ont été fondés, et qui ont des membres, j'en ai rencontré beaucoup l'été dernier, remarquables, hein, de grands musiciens, de grands savants, de grands spirituels, des grands défenseurs de toutes sortes, des originaux parfois qui sont merveilleux dans leur sainteté ou du moins dans leur ferveur. C'est un ordre remarquable que je ne connaissais pas. J'ai appris à les connaître l'été dernier. Ça me fait plaisir de faire aujourd'hui cette émission destinée à rappeler l'existence de ces sept marchands de Florence qui ont vécu au XIIIe siècle et qui ont fondé sans trop le vouloir l'ordre des Servites de Marie. Or, dans le texte biographique que je vous ai lu tout à l'heure, texte de 1317, on dit que les sept fondateurs aimaient le Seigneur par-dessus tout, dirigeaient vers lui toute pensée, toute action, les accompagnant de paroles et de faits. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que constamment ils pensaient au Seigneur, mais pour réaliser un tel programme, on peut bien l'écrire, on peut bien le dire des autres comme ça, mais c'est pas facile à faire. Parce que nous sommes tous faibles et distraits. Nous sommes tous un peu mous, un peu lâches. Alors évidemment qu'une conversion avait été nécessaire. Pas du péché à la grâce, c'était pas des pécheurs. Mais ça prend une conversion de mentalité. Et c'est ce qu'il faut dans notre vie souvent, de chrétiens, engagés, convaincus d'avance, pratiquants, même qui vont à l'église tous les jours, pour convertir constamment sa mentalité. Et c'est ainsi que les fondateurs ont ressenti comme inspirés de Dieu une amitié fraternelle inusitée qui les a unis, qui les a distingués parmi les nombreux associés de cette compagnie majeure de Sainte-Marie à laquelle ils appartenaient, qui était très grande, et parmi aussi les frères de la pénitence qu'ils connaissaient. C'est Dieu lui-même qui les appelle à quoi? À un amour particulier, pas une dévotion spéciale pour sa mère. Pas une dévotionnette, mais une dévotion profonde. Et c'est de Dieu que vient ce désir de vivre ensemble, puis la force d'abandonner commerce, famille et biens, sans renoncer pour cela, évidemment, à la charité envers les pauvres, ou sans renoncer à un conseil, un rapprochement avec des amis, occasionné par leur exemple. C'est la voix même de Dieu qu'ils écoutent, dans les événements même politiques de leur ville, car Dieu parle au creux des événements politiques, et si nous étions plus engagés dans des événements politiques, la vie sociale et la vie administrative de nos villes, de nos provinces, de nos pays, de notre monde se transformerait. Pensons à ce grand maire de Florence, Giorgio La Pira, au XXe siècle. Oh, j'espère un jour faire sa vie. Il est mort en odeur de sainteté. Maire de Florence, justement. Et il pense aussi au désir de sécurité et de solitude qui les amène à gravir le fameux Mont Scénario. Alors, cette vie érémétique nécessaire, à laquelle peut-être ils n'avaient jamais rêvé, va les préparer à comprendre comment Dieu lui-même a décrété que dans leur vocation personnelle doit naître un ordre nouveau dans l'Église et pour le bien des hommes. Nous devons tous, à certains moments, nous faire ermite, ne serait-ce que 3 jours ou une semaine par des retraites, chaque année. C'est très important. Savoir se ménager aussi des moments de silence chaque jour, de paix, de sérénité avec Dieu. C'est ça le mon scénario. Et dans les dernières années de sa vie, le frère Alexis Falconieri, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était resté simple et religieux sans recevoir les ordres sacrés, va confesser à l'auteur du texte que je vous ai lu, « Il ne fut jamais de mon intention ni de celle de mes compagnons de fonder un ordre nouveau. Nous ne pouvions non plus nous imaginer que de notre vie commune, une multitude de frères allait nous suivre. Mes compagnons et moi-même, nous avions pensé d'avoir été réunis par une inspiration divine, dans le seul but de pouvoir plus facilement puis plus dignement accomplir la volonté de Dieu, c'est tout. Évidemment qu'on peut ajouter aujourd'hui que la volonté de Dieu s'était réalisée en eux par leur charité, mais aussi par leur identification à la présence divine. Présence divine, en chacun d'eux, Dieu est présent chacun de nous. Et les fondateurs ont découvert cette présence divine dans tous les événements de leur vie et de la société à laquelle ils appartenaient. Le chemin de la sainteté est bien tracé par l'Évangile. Après l'amour de Dieu vient le refus, le rejet du pouvoir sur les choses et sur les personnes, afin que quoi? Que l'amour des créatures soit gratuit. Car il faut aimer les créatures, mais gratuitement. Et cet amour gratuit reflète le même amour que Dieu notre Père a pour sa création. Alors nos saints ont abandonné, en effet, tout pouvoir, tout instrument de pouvoir, tel le succès dans le travail, entre les amis, dans la famille. Ils ont renoncé aux biens matériels. Ils se sont retrouvés, comme il est normal pour les saints, non pas riches en richesse du monde, mais riches dans ses richesses spirituelles, riche en affection, riche d'estime pour tout le monde, riche aussi de moyens pour aider le prochain, car quand on entre en religion comme ça, on trouve les moyens d'aider le prochain, parce qu'on est débarrassé du travail de 9 à 5, etc. Alors, ils peuvent consacrer tout leur temps et devenir ainsi des instruments de la bonté de Dieu. Et un autre aspect identifiant leur sainteté a été l'amitié fraternelle qu'ils ont vécue ensemble. Pour témoigner les idéaux peut-être plus déchus que nous ne pouvons l'imaginer dans leur temps. C'était une époque difficile. Amitié, fraternité, vie commune, valeurs spirituelles et morales, c'est pas nouveau dans l'Église, mais pensez quelque peu à l'individualisme inné des Toscans, la région où est établie la ville de Florence, là. L'individualisme inné aussi des habitants de Florence, des Florentins, même de nos jours, sont encore un peu comme ça. Et vous comprendrez à peu près le caractère des contemporains des sept fondateurs, dont Dante, dont je vous ai parlé, dans sa personne et dans son enfer, il est bien le chroniqueur fidèle. Donc ce sont sept amis, sept frères, étroitement unis dans leur amitié réciproque, toute une vie, dans cette Florence de Dante. C'est une réalité tellement inconcevable que seulement une sainteté individuelle et de groupe nous le fait accepter. Parce que vivent sept hommes marchands, adultes, certains non mariés, d'autres mariés, etc., pour qu'ils forment une communauté, c'est pas facile. Il n'y a pas un Saint-François ou un Saint-Dominique parmi eux qui soutiennent l'unité par son ascendant personnel. Non, il n'y en a pas un qui fait le nœud. Parmi eux, le supérieur apparaît seulement quand les exigences juridiques de la nouvelle institution l'exigent. C'est donc un groupe de sept où il n'y a, pour ainsi dire, pas de supérieur. Il ne suffit certainement pas pour expliquer cette communion d'intention, cette égalité idéale, l'appartenance à des fraternités ou à des corporations d'intérêt matériel où ils auraient atteint le bon sens pratique dans l'administration des biens spirituels. Leur but ultime, dans le temps et pour l'éternité, c'était Dieu. Le moyen, disons, le chemin le plus sûr pour atteindre l'unique médiateur près du Père, Jésus-Christ, ils l'identifièrent dans leur amour, dans leur dévotion, puis dans leur service à la Vierge Marie, la mère du médiateur suprême, Jésus-Christ. Et malgré la brièveté qu'on peut s'imposer, puisque ce n'est pas facile de s'arrêter sur d'autres aspects de la sainteté des fondateurs des Servites de Marie, il faut souligner la caractéristique la plus sensible et la plus évidente de leur vocation. La tradition raconte que le nom de serviteur de Marie a été prononcé pour la première fois par des enfants. D'ailleurs, dans le texte que dont je vous ai parlé plusieurs fois, de 1317, ce texte est varié sur le témoignage. Et il nous rapporte l'acte de consécration d'offrande aussi avec lequel les sept fondateurs se sont consacrés eux-mêmes, comme individus d'abord, puis comme groupe au service de la Sainte Vierge. Nous savons bien, plus une âme est près de Dieu, plus elle craint et voit en elle l'ombre de la faute. Car l'amour de Dieu nous enveloppe tout à coup et on craint de blesser Dieu. Alors nos sept fondateurs, écrit l'auteur, redoutant leur propre imperfection, pensèrent à se réfugier aux pieds de la Reine du Ciel, la très glorieuse Vierge Marie, afin que, comme médiatrice et avocate, elle puisse intercéder pour eux auprès de son Fils. Et Marie, suppléant par son immense charité à leur faiblesse, implora la miséricorde de Dieu et la récompense de leurs travaux. Pour Dieu, ils se mirent au service de la Vierge Marie, et dès lors, ils ont voulu être appelés serviteurs de Sainte Marie. Le nom qu'ils se sont donné exprime donc clairement un programme. La formule que nous avons énoncée emploie des expressions et des opinions qui n'explique pas tout à fait le contenu spirituel du Moyen-Âge. Se mettre au service de Marie comprenait sûrement un axe extérieur, bon d'accord, un symbole de ce geste. Et les sept fondateurs ont fait cette consécration de leur personne devant une icône de la Vierge. On dit qu'ils se jetèrent aux pieds de la Reine du Ciel. Alors le geste signifiait un comportement intérieur semblable à la coutume, vous savez, féodale. C'était il y avait des seigneurs, puis des serfs. Alors, c'était semblable à la coutume féodale du service qu'on appelle d'un vassalage à qui on se confiait avec ses biens et sa famille aux dépendances d'un seigneur, d'un roi ou d'un homme très important qui possédait de grandes terres. Et en compensation, un tel service comprenait de la part de celui qui recevait le devoir d'offrir en retour l'assistance, la défense et le soutien. Alors c'était comme si la Sainte Vierge, une seigneuresse, pour un service rendu par les sept fondateurs, s'obligeait à servir de médiatrice pour eux auprès de son fils, par sa protection maternelle, contre toutes sortes d'ennemis de l'âme et du corps, puis par le réconfort de sa charité parfaite. Alors, ainsi guidés par Marie, bien, ils étaient convaincus qu'ils s'engageaient sur le chemin le plus sûr pour arriver au Christ. Servir la Mère de Dieu pour eux était aussi une école de service envers tous les frères, selon le cœur de Dieu. Alors, cet acte de service de la Vierge, ou à la Vierge de la part de Jean, comme ça, n'était pas nouveau dans l'Église. Hein. Ce qui était nouveau chez les sept saints fondateurs servites, c'était le service de groupe constitué comme vocation, identifiant un ordre entier. C'est le premier ordre qui prend le nom de Marie. Et c'est pourquoi les serviteurs de Marie, ou les servites de Marie, dans leur histoire de près de 800 ans, ont toujours accueilli totalement le mystère de la Mère de Dieu, sans exception d'aucune sorte. Dans les disputes doctrinales et dans les manifestations de dévotion populaire les plus variées, ils sont au service de Marie. Ils sont des serviteurs de la servante du Seigneur. Ce ne fut pas sans raison que l'Annunziata, ce grand centre de leur maison à Florence, mais l'Annunziata, c'était l'icône érigée à Sainte-Marie de Cafaggio comme sanctuaire. Alors, je peux vous donner des détails brefs là, sur quelques-uns des fondateurs. Il y a un qui s'appelle Bonfils Monaldi, c'est un curieux prénom, un Bonfils, Buonfiglio, qui est né à Florence en 1198. Ils sont presque tous nés aux environs de l'an 1200. Et c'est le plus âgé des sept, il est le premier supérieur. Supérieur, pas tout à fait, ça a pris un certain temps avant qu'il devienne supérieur. Il gouverne la communauté pendant les 16 années du début en principe. Et il a été attentif à diriger vers Dieu son esprit et son cœur. Il avait également grande confiance en Marie, dont il cherchait à imiter les vertus, dit-on. Et il pratiquait le jeûne et de sévères mortifications puis de longues oraisons. Et c'est lui qui a donné l'habit de l'ordre à Saint Philippe Benetti, l'un des plus grands saints servites. Il venait de visiter les couvents de l'ordre avec ce dernier quand le 1er janvier 1262, sur une invitation de la Sainte Vierge, là, dans l'oratoire, après les matines, il a rendu doucement son âme à Dieu. Si c'est la Sainte Vierge qui est venue le chercher. On trouve son nom au 1er janvier dans le martyrologe. Un deuxième s'appelle Jean Manetti, qui est né quelques années plus tard, lui en 1206, hein, donc 8 ans plus jeune que Monaldi, le père Monaldi. Il était doué d'un caractère heureux, paraît-il, d'un beau talent, mais il a placé au-dessus de tout la vie intérieure puis la sagesse des saints. Il aimait la solitude, la contemplation, la méditation des vies de saints, puis surtout particulièrement la vie de Jésus et de Marie. Il est devenu général de l'ordre, lui, en 1256, à la mort du prédécesseur. Et puis, il exerce sa charge difficile que peu de temps, car il est le premier de tous à être appelé à Dieu en 1257. Et puis, il y a aussi Manetto de Nantella, qu'on appelait Benoît aussi, hein. Et il est né à Florence en 1203. Il a d'une intelligence remarquable, appliqué à l'étude, puis fait des progrès rapides dans les connaissances de la théologie. Il évite les dangers auxquels son charme personnel, paraît-il, qu'il était très bel homme, ça aurait pu l'exposer à bien des aventures. Et puis il a su pratiquer l'humilité, la piété envers la Mère de Dieu. Puis au Mont Scénario, là, il vit ordinairement dans une grotte solitaire qui est vénérée. Et puis, il est élu supérieur général après Jacques de Sienne, en 1265. Lui, il contribue au développement de l'ordre par son activité et ses vertus, puis il renonce finalement son pouvoir, son office, puis fait élire son successeur, Philippe Benetti, justement, Saint Philippe Benetti, en 1267. Et en 1268, il meurt. Et il est assisté du nouveau général. On le fête le 20 août. Et je vous parle maintenant, d'ailleurs, de Barthélemy, un autre des sept saints fondateurs des Servites de Marie, Toujours né à Florence en 1204, lui, au sein d'une famille divisée par des grandes inimitiés, il évite les querelles de sa famille et les dangers qu'il pouvait rencontrer, parce que c'était dur, les querelles, chez les Italiens, parfois, même dans le Nord. Puis, il se montre désiré d'aimer Dieu par-dessus tout. Il est modeste. Il est irréprochable, dit-on. Son visage reflétait la pureté de son âme, d'ailleurs, et par égard pour sa candeur, sa propre famille évite de l'impliquer dans toutes les querelles qui les divisent. Ses œuvres et ses paroles lui font obtenir un jour par ses prières la résurrection d'un enfant de 8 ans qui venait de se noyer, dit-on. La résurrection d'un enfant. C'est Jésus qui dit dans l'Évangile que nous ferons des choses encore plus fantastiques que celles qu'il a faites. Alors pourquoi pas, peut-être. Moi, je ne suis pas prêt à dire que c'est faux. Et son mérite le fait choisir successivement comme prieur du Mont Scenario, puis de Cafaggio, c'est-à-dire à Florence. Il meurt en 1266 et au moment où il expire, on dit qu'une flamme resplendissante a jailli de son lit vers les cieux. Et tout le couvent a été embaumé d'un parfum céleste. Vous direz que ça n'a pas de sens, mais ça existe encore dans notre siècle. J'ai été témoin, moi, de parfums qui se répandent comme ça. Oh, je passe pour un imbécile en disant ces choses-là, mais ça ne me gêne pas. J'ai été témoin de ces miracles, je les ai sentis de mon nez, c'était pas des illusions, je vous assure. Ça existe. Donc, tout le couvent fut embaumé d'un parfum qui venait, évidemment, de l'au-delà. Et son corps a été déposé religieusement à côté de ceux des pères Bonfils et du deuxième dont je vous ai parlé, dont le prénom était Bonagionte. Il est mentionné, lui, au martyrologe le 18 avril. Enfin, il y a aussi Gérardin, puis il y a Ricovere, qui sont nés en Florence. Une amitié solide en avait fait des frères, ces deux-là. Ils étaient unis l'un à l'autre dès leur jeunesse. Et puis l'un aimait le recueillement, la lecture, la vie des saints. Et puis, il n'aimait pas beaucoup la littérature, mais son ardeur pour l'union à Dieu inspirait le respect même aux plus mondains, car les gens qui aimaient la littérature le respectaient. Et puis, le deuxième, lui, était animé d'une grande charité pour les pauvres. Il aimait les aider, et s'il apprenait que les domestiques de la maison en avaient repoussé un ou deux, il s'en montrait vraiment inconsolable. Il avait une grande pitié des mendiants. Et il a su se créer une sorte de solitude dans le palais de ses parents. Mais il se plaisait surtout aux offices à l'église. Il était suffisamment instruit, il avait un esprit fécond, puis il avait le sens de l'humour. Il aimait rire tout en approfondissant sa vie spirituelle. Et tous deux ont travaillé avec succès la diffusion de l'ordre des Servites de Marie dans les provinces du Nord. Le premier a été, ce Stigny, a été élu vicaire général pour la France. On l'appelait Gérardin aussi. Et puis l'autre, était en Allemagne. Ils se sont retrouvés ensuite au Mont Scenario vers la fin de leur vie. Et malgré leur grand âge, Saint-Philippe Benetti les a appelés à Viterbe, au nord de Roms, pour la tenue d'un chapitre général. Ils sont rentrés au Mont Scenario. Puis ils se sont entretenus de tout ce qui s'est accompli depuis 50 ans pour l'établissement et la propagation de l'ordre, quand une voix leur dit fort distinctement, dit-on, serviteur de Dieu et de Marie, ne pleurez plus. Ne pleurez plus sur le prolongement de votre exil. Vos labeurs touchent à leur fin. J'aimerais ça me faire avertir comme ça la veille de ma mort. Ce serait bien, hein, ça, si c'était toujours comme ça. Et arrivé au couvent, bien l'épuisement puis la fatigue les obligent à se mettre au lit. Alors, ils meurent ensemble, sont emportés au ciel par deux anges, raconte-t-on. Évidemment, ça touche à la légende dorée, tout ça, hein? Des légendes, probablement. Et la nuit où ils ont expiré, Saint-Philippe Benetti, revenu de Rome à Florence, aperçoit dans une vision deux lys d'une blancheur éclatante que l'on coupe sur terre et qui sont ensuite présentés au ciel à la Sainte Vierge. Alors, il comprend que les deux vieillards, ses confrères, ont quitté ce monde. Il annonce la nouvelle aux frères, et les deux saints ont une mention commune le 3 mai. Et Alexis Falconieri, dont je vous ai parlé au tout début, qui est né à Florence, toujours en 1200. Il montre tout jeune une affection particulière pour les cérémonies religieuses. Ça nous rappelle, à plusieurs d'entre nous, les fascinations qu'on avait pour les cérémonies. Moi, je les avais à Sainte-Madeleine-d'Outremont, au début des années 30. J'étais fasciné, j'étais enfant de cœur. J'aimais ça. C'est curieux, hein? Pourtant, c'était tout en latin. On comprenait pas grand-chose, mais on était fascinés. C'est vrai qu'il y avait pas de télévision dans le temps. On n'allait pas au cinéma non plus. Et ses maîtres, Falconieri, Alexis Falconieri, il l'apprécie. Ses progrès sont bons dans ses études. Mais ce qui domine en lui, c'est l'humilité puis l'amour de la chasteté. Alors, il fait vœu de garder cette vertu puis consacre à Marie toute sa vie. Et puis, il récite chaque jour 100 Ave Maria pour garder son vœu. Et entré le plus jeune dans l'ordre, il y a vécu le plus longtemps de tous, comme je vous ai vu, 112 ans. Il a eu la consolation d'en voir l'approbation définitive. Il avait refusé d'être prêtre. Sa joie était de recueillir en qualité de frère les aumônes faites à la communauté. Il était heureux de remplir les tâches les plus simples, les plus humbles. Il était en particulier l'instrument choisi de Dieu pour la sanctification de sa nièce, sainte Julienne Falconieri, qui est célébrée le 17 juin. Et qui l'a entraîné à donner sa vie au service de Marie dans le tiers-ordre dit des mantelés. Ça existe toujours. Hein. Il est mort, donc, comme je vous ai dit, très, très âgé. Et à ses derniers instants, Jésus lui est apparu, dit-on, sous la forme d'un enfant qui tenait une couronne de fleurs variées odoriférantes qu'il a placée sur la tête de son serviteur. Et Alexis Falconieri, couronné comme ça, s'est mis à réciter, suivant sa coutume, les 100 Ave Maria. Puis au dernier, il a expiré. C'est très beau, ces histoires, même si c'est peut-être pas vrai. Ça n'a pas d'importance. C'est beau. Et ça nous rappelle des vérités fondamentales. Qu'il faut prier jusqu'au dernier moment. Alors, les 7 marchands florentins sont morts au Mont-Scenario, sauf Alexis Falconieri. Lui, il est mort à Florence. Les restes sont tous ensevelis ensemble. Et presque aussitôt, après leur mort, il y a eu un culte qui leur a été rendu. Benoît XIV attestait même de son temps que les corps étaient conservés dans l'église du Mont-Scenario sous l'autel de la chapelle située derrière le chœur. Donc, ce sont vraiment leurs restes que nous avons. Ils ont été reconnus au XVIIIe siècle, officiellement. Ils ont été béatifiés et puis, finalement, ils ont été canonisés. Leur fête était célébrée autrefois à différentes dates, en particulier le 11 février, ensuite le 12 février à cause de l'institution de l'apparition, de la fête de l'apparition de Notre-Dame de Lourdes, puis c'est maintenant le 17 depuis la réforme du calendrier. Alors, les corps, donc, je vous ai dit, après leur mort, ont été recueillis dans une même tombe, dans une même châsse, et à travers les siècles, en s'inspirant des vertus de ces 7 fondateurs, l'ordre des Servites a continué à donner beaucoup de saints à l'Église, et je vous rappelle que le dernier, c'est saint Antoine Pucci, ce petit curé de Viareggio, qui a été élevé à la gloire des autels il y a à peine une trentaine d'années. Espérons que d'autres seront canonisés, et surtout qu'ils auront de nombreuses vocations, comme en particulier celle du bon père Sirard que je salue.